Être universitaire aujourd'hui, avec Marc Calvini Lefebvre, maître de conférences en anglais à Aix-en-Provence. Oui, si les universités, si l'université, comme toutes les institutions, pose question, il y a dans chaque institution, au cœur du quotidien, des êtres qui sont heureux, assument avec compétence et qualité d'être leur profession. Nous sommes allés en février 2016 à Aix-en-Provence, dans son bureau de chercheur, réaliser cet entretien. Écoutez Marc parler de sa profession. Monsieur Calvini Lefebvre, merci de nous recevoir dans votre bureau de chercheur à la faculté des lettres, des arts, des langues et des sciences humaines d'Aix-en-Provence. C'est bien ça ?
Merci à vous, oui, c'est ça.
Alors, une première question, pourquoi Calvini Lefebvre ?
Pourquoi Calvini Lefebvre ? Parce que je fais profession de féminisme et mon épouse s'appelle Calvini, moi je m'appelle Lefebvre. Lorsque nous avons décidé de nous marier, elle m'a demandé si moi je prendrais son nom et en abandonnant le mien. Et je lui ai dit qu'évidemment non. Elle m'a dit moi non plus. Donc on a décidé de prendre les deux. Ça nous paraissait plus cohérent, en cohérence avec notre vision des choses. Et j'ai découvert après que les féministes du 19e siècle britannique, dont je suis spécialiste, le faisaient couramment. Il y a énormément de couples qui, au 19e en Grande-Bretagne, lorsqu'ils se marient, prennent les deux noms.
Mais en France, non.
Alors, je connais moins bien le cas français, mais je pense que non. Effectivement, ou peut-être que c'était moins fréquent.
Vous voulez dire par là que les Anglais sont plus évolués que nous dans ce domaine ?
Je veux dire par là que le mouvement féministe au 19e, le cœur du mouvement féministe mondial, c'est la Grande-Bretagne. Et elles sont beaucoup plus militantes, beaucoup plus nombreuses. Elles mènent le mouvement, la révolution féministe. Pour le monde entier, elles sont la référence. Et les féministes françaises sont plus en retrait, mais pour des raisons qui sont liées sans doute à l'histoire de nos deux pays.
Mmh. Et alors, quel a été votre parcours et quel choix avez-vous eu éventuellement, ou tout simplement, le choix du monde universitaire s'est présenté rapidement ?
Ah, alors ça, le choix du monde universitaire s'est présenté à 19 ans, 20 ans, quand je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? J'en savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais lire des livres, notamment des livres qui prétendaient expliquer le monde qui m'entourait. Donc moi, je voulais continuer à lire ce genre d'ouvrages, les ouvrages de philosophie, de sociologie, d'économie politique, etc. Et je regardais autour de moi, et les adultes que je connaissais, qui avaient des carrières très intéressantes, notamment mon père, qui était un cadre très avancé dans sa carrière, des gens très brillants, mais qui ne lisaient plus rien, à part des rapports, pour leur boulot. Et je me suis dit, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, si je veux continuer à lire des bouquins, quel est le métier dans lequel on peut le faire ? Et ça, le monde universitaire paraissait le choix d'évidence. L'autre motivation, c'était que je voulais, en fait, enseigner. C'est-à-dire, pour être honnête, en fait, j'avais très très envie d'être sur scène. J'avais envie d'être sur scène et de partager le savoir, mais aussi de faire un peu le clown. Enfin, c'était aussi l'objectif. En fait, j'étais inspiré par d'autres enseignants. Je voyais mes profs, il y en avait certains que je trouvais extraordinaires. Et voilà, ça, ce serait amusant d'avoir ce rôle-là. Puis j'en voyais d'autres qui étaient tellement atterrants. Je me disais, mais je pourrais mieux faire le boulot qu'eux. Donc voilà, je voyais l'intérêt de cette profession. Ce que j'avais pas tout de suite saisi, c'est qu'il fallait faire une thèse pour en arriver là. Et ça a été plus sportif. Mais dans un premier temps, le choix, c'était je veux pouvoir continuer à lire des bouquins et de m'intéresser à qu'est-ce que le monde et comment le comprendre et ma place dans le monde, etc. Et enseigner.
En fait, si je résume, vous êtes parti du livre pour vous mettre à l'ouvrage afin d'y envisager l'œuvre de votre vie.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est une belle manière de le dire, oui, tout à fait.
Et alors, votre domaine privilégié, on a compris, de la recherche, c'était le féminisme.
Oui, c'est ça. L'histoire du féminisme. Alors, l'histoire, en fait, mon point de départ, c'est l'histoire des idées politiques. C'est ma grande passion, c'est ce qui me passionne quand je fais mes études à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Donc là, c'est vraiment le coup de foudre, l'histoire, le développement des idées, etc. Et ensuite, ça va s'affiner avec une année Erasmus absolument capitale. Donc Erasmus, c'est vraiment, j'espère que ce système va se maintenir, parce que je pense que c'est absolument génial, à l'université de Durham, au nord de l'Angleterre. Où là, mon goût pour cette discipline ne fait que s'accentuer. Et ensuite, je vais faire un master en théorie politique à Londres, puis ma thèse en histoire des idées. Donc l'histoire des idées, c'est le cœur de la question pour moi. Et ensuite, pourquoi le féminisme ? Parce que justement, une des raisons pour lesquelles je me lance dans l'étude des idées, politiques en général, c'est parce que j'ai envie d'arriver à un point de vue personnel, vraiment mien, sur justement le monde politique. Parce que je suis un peu gêné aux entournures par le fait que mes parents se sont rencontrés au Parti Socialiste dans les années 70. Et donc je me dis, bon, si je suis entre guillemets à gauche, ça doit être l'héritage. C'est pas rationnel. Alors comme je veux être un enfant des Lumières et que je vais tout faire pour des raisons rationnelles, je me dis, je vais étudier les idées de manière rationnelle. Voilà. Donc je vais toutes les idées, comme ça je vais savoir à quelle famille politique j'appartiens par la tête et non plus par le cœur. Et finalement, je me rends compte très tardivement que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais c'est pas grave, j'ai quand même entre-temps eu cette passion pour les idées. Et alors, quand j'arrive en Angleterre là, et que j'ai enfin un cours qui s'appelle Feminist Political Theory, théorie politique féministe, j'ai le coup de foudre là pour le coup, parce que j'avais bien étudié plein de choses en France, mais jamais le féminisme. Et là, je découvre une pensée critique qui est extrêmement riche et qui me permet de faire sens de choses que je ne comprenais pas jusque-là. Notamment, pourquoi n'y a-t-il pas plus de femmes à l'Assemblée nationale en France ? Et je comprends qu'avec la théorie féministe, j'ai des outils pour comprendre où sont les blocages conceptuels. Pas simplement matériels, logistiques, mais conceptuels. Il y a une question à poser à l'universalisme à la française, qui finalement n'est pas un universel neutre, mais un universel masculin. Donc ça m'aide à mieux comprendre ces blocages-là. Et en plus, on est en pleine guerre d'Irak. Et donc je finis par m'intéresser à la pensée féministe sur les questions de guerre et de paix. En historien, et donc je reviens au 19e siècle. Voilà, c'est comme ça que mon
chemin. Et là, vous mettez à naviguer comme vous l'entendez. Enfin, je veux dire, vous êtes vous-même auteur de votre parcours.
Voilà, c'est ça. À partir de là, oui.
Et vous continuez de naviguer. Si demain il se passe autre chose dans le monde, vous recentrez votre travail, vos réflexions sur autre chose. Mais toujours avec le cadre du féminisme.
Voilà, c'est ça. La grille de lecture, ça va être la théorie féministe. Et donc, comme une des choses qui en ressort. Ou un des mouvements qui en ressort, c'est ce qu'on appelle les gender studies ou études genre en français, eh bien, à l'heure actuelle, je me retrouve à faire beaucoup de cours qui tournent autour des études genre en France. Enfin, donc j'ai un cours ici qui s'appelle, à la fac de lettres, qui s'appelle Gender and Work, donc on s'intéresse au plafond de verre, à la question du plafond de verre, et j'en ai un autre à Sciences Po, qui s'appelle Gender and Politics, où là je parle de comment les études de genre nous permettent de revoir ou de repenser justement la politique et le politique.
Alors justement, vos recherches, vous les conduisez comme vous l'entendez. Mm-hmm. Vos enseignements, vous êtes bien obligé éventuellement d'être conduit à prendre tel thème ou tel autre, mais vous pouvez aussi appliquer vos thèmes de recherche en enseignement. Comment se fait l'alliance entre tout ça ?
Alors, pour les enseignements, tout dépend au niveau auquel on se situe. Plus on est en bas de l'échelle, plus on est en L1, enfin première année de licence, deuxième année de licence, on va être amené à faire des cours, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont des cours introductifs. Donc, par exemple, le cours de première année de civilisation britannique, on va de Henri VIII à nos jours. Il est évident que je ne suis pas spécialiste de l'histoire enfin, je ne suis pas chercheur en histoire du XVIe siècle britannique. Mais ce sont des cours très enrichissants pour moi, parce que justement, ça me permet de mieux connaître cette longue trame historique. Et rien ne m'empêche de glisser les choses qui m'intéressent plus particulièrement dans ces cours-là. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de Élisabeth la Première, qui était la reine vierge, the Virgin Queen, là, les études genre sont particulièrement appropriées, puisque ça permet de réfléchir à comment on construit l'identité masculine et l'identité féminine à cette époque, et comment Élisabeth, qui est une femme, qui a conscience qu'être une femme est un handicap lorsqu'on est monarque, va utiliser sa féminité à son avantage. Comment elle va utiliser les codes de la féminité pour en jouer et les transformer en force là où ça aurait pu être une faiblesse. Donc ça permet de parler du genre de manière détournée. Donc j'arrive toujours à glisser des choses d'une manière ou d'une autre.
Autrement dit, il n'y a pas forcément opposition radicale entre l'enseignement et la recherche.
Mais il n'y en a surtout pas. Je dirais même au contraire que une des choses qu'il faut absolument arriver à faire le plus possible, c'est de toujours faire passer sa recherche dans ses enseignements et, j'ajouterais, sans la cacher, la présenter comme telle. Moi, j'essaie toujours de dire à mes étudiants et à mes étudiantes d'où je viens et d'où je parle. En leur disant très clairement, attention, on est entre adultes. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais vous dire. Vous avez le droit de trouver que, enfin, de contester mes interprétations et mes propositions. Et quand je vous parle quand je leur parle du genre, je le fais pas en me cachant. J'essaie de dire très clairement, voilà d'où je parle et voilà pourquoi je vois les choses de cette manière et pourquoi je pense que c'est un angle d'analyse intéressant. Mmh. Et j'essaie de les inviter à ne pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant.
Alors, comme universitaire, vous avez au moins trois domaines, l'administration, l'enseignement et la recherche. Oui. Comment faites-vous ? Parce que ce n'est pas simple de piloter ces trois dimensions à la fois. Mmh. Je crois que les étudiants et même les parents ne se rendent pas compte des charges administratives, que l'enseignement n'est pas la recherche, que la recherche demande aussi beaucoup de temps. Comment arrivez-vous à gérer le tout ?
Ben, je pense que comme tout le monde, il y a des jours où je coule et il y en a d'autres où je remonte à la surface. Ce qui est difficile, c'est d'apprendre à dire non. Apprendre à dire non, à apprendre à dire ben, bien que ce projet-là me paraisse particulièrement passionnant, je ne peux pas. Et accepter qu'on ne va pas pouvoir se lancer dans tous les projets qui nous animent ou qui nous font envie. Et trouver aussi le moyen de s'entourer de collègues qui travaillent comme vous, ont les mêmes envies, les mêmes espoirs, et qu'avec eux, on arrive à créer des liens de solidarité qui permettent justement, d'une part, de partager nos peines, parce que c'est toujours utile d'avoir des gens autour de vous avec qui discuter, et qui aussi peuvent vous donner des conseils, qui sont passés par là avant vous. Moi, j'ai des collègues qui ont 3-4 ans de plus que moi, et bien ils ont 3-4 ans de bobos supplémentaires, et ils peuvent me dire, bah voilà, ça fait mal, donc fais très attention, faisant un peu moins de ce côté-là, faisant un peu plus de ce côté-là. Il faut aussi espérer compter sur la solidarité plus générale entre collègues. La partie administrative de la fonction, effectivement, est méconnue du grand public. Elle est effectivement très chronophage, en partie parce que ben, les universitaires ne sont pas des managers, mais on leur demande d'être des managers. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué. On n'a pas de formation, et pourtant, nous nous manageons entre nous. Ce qui, forcément, quand certains d'entre nous n'ont pas forcément les compétences sociales, managériales, et ben des fois ça frotte, des fois ça pique, parce que les individus ne s'entendent pas, n'arrivent pas à se dire les choses d'une manière qui fonctionne, et donc on arrive à des clashs personnels qui ne devraient pas exister. On devrait pouvoir traiter le problème sans que ça devienne personnel. Mais parfois ça le devient, et ça c'est un peu malheureux, donc il faut apprendre à éviter ça. Mais quand on peut compter sur la solidarité de l'ensemble du département, donc je vous disais que le mien, on est 50, hein, on est un gros département,
c'est énorme.
Et donc, comme on est 50, on peut aussi passer les responsabilités. Au bout de 3-4 ans, c'est à quelqu'un d'autre de prendre la charge. Ça vous décharge, vous, de ces responsabilités administratives. Et on peut repasser à un peu plus d'investissement sur sa recherche personnelle ou sur ses cours.
Mmh. Et comment vous percevez les étudiants ? Il y a 4 ans, 5 ans que vous êtes en poste maintenant ?
Voilà, 5 ans.
5 ans. Comment vous percevez les étudiants ? Dans une fac, parce que être étudiant dans une grande école, être étudiant à Sciences Po, être étudiant dans un IUT ou dans une conservatoire n'a rien à voir avec la fac. Selon vous, comment vous voyez ce monde étudiant qui est calme, qui me semble redoutablement soumis finalement?
Alors oui, ils sont effectivement assez dociles, et bon, ça c'est une bonne nouvelle pour l'institution, parce que ça veut dire que on peut faire les choses, on peut faire des choses parfois pas très efficaces, et bon, ils râlent un peu, mais ça passe. Cela dit, moi ce que je vois, ce sont la difficulté de l'enseignement à la fac par rapport pour enseigner, parce que j'enseigne aussi à Sciences Po. La différence que je vois n'est pas tant une différence de niveau. On va dire, ouais, mais Sciences Po, ils passent un concours, alors ils sont très forts. C'est pas tout à fait vrai. Ils sont très forts, Mais j'en ai des très forts ici aussi. J'ai des étudiants exceptionnels à la fac. Simplement, la différence, c'est qu'à la fac, j'ai une hétérogénéité qui est incroyable. Enfin, je vais, en gros, de l'étudiant absolument brillant à l'étudiante ou l'étudiant, enfin, l'étudiante brillante, à l'étudiant ou l'étudiante qui n'a pas sa place dans cette formation. Mais pas parce qu'on n'a pas envie que cette personne suive une formation d'anglais, parce qu'elle n'est pas armée pour le faire. Elle n'a pas eu, au niveau précédent, suffisamment de cours d'anglais. Puisque la fac est ouverte à toute personne qui a un baccalauréat, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants choisissent l'anglais par défaut. C'est-à-dire, bon, j'ai fait un bac pro, j'avais peu d'anglais par semaine, j'ai pas eu l'IUT ou le CAP ou le truc que je voulais, donc bah, pour l'instant je vais m'inscrire en anglais, après tout l'anglais ça servira toujours, et les pauvres, là ils vont au massacre parce qu'ils n'ont pas les armes. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on a un bac pro qu'on ne peut pas réussir en licence d'anglais, simplement il faudrait avoir de l'anglais qui vienne d'ailleurs que le bac pro, peut-être quelqu'un dont les parents sont anglophones ou qui a fait un séjour linguistique, bon là, ils auront peut-être les armes pour réussir, mais en volume horaire pur, avec dans ces bacs-là, on n'a pas assez d'anglais. Ça peut être vrai pour d'autres bacs qui ne sont pas des bacs pro, hein. Mais voilà, ça pose ce problème-là. Donc l'hétérogénéité crée ensuite le sentiment que oh, on a beaucoup d'étudiants qui sont faibles, mais c'est pas qu'ils sont faibles, c'est qu'ils sont mal orientés. C'est ça la difficulté. Donc après, pour eux, c'est là que la docilité est plus problématique. C'est pas tant la docilité au sens collectif, où il faudrait qu'ils se battent tous collectivement un peu plus pour secouer l'institution parce qu'elle est défaillante sur tel ou tel point. Je dirais que la docilité, elle est plutôt individuelle dans ce que vous disiez tout à l'heure, se prendre sa vie en main. Un sentiment que, bon, ben, si ça marche pas, eh ben, je vais continuer comme ça à vivoter en L1 pendant un an, deux ans, trois ans. Et la bonne nouvelle, c'est nous, ce que nous faisons dans notre département, mais c'est vrai ailleurs, nous avons des enseignants référents, donc je suis moi enseignant référent pour une centaine d'étudiantes, qui viennent me voir et on fait le point.
Donc il y a de l'orientation.
Voilà, alors en même temps, nous ne sommes pas conseillers en orientation.
J'entends.
Voilà. Mais on essaie de les aider. Voilà.
On retrouve l'esprit de prothélique.
Oui, c'est ça.
Hein, d'une première année où les gens se cherchent, et à défaut d'avoir eu l'orientation suffisante avant, c'est dans cet espace qu'ils vont naviguer, se repositionner, etc.
Oui, tout à fait.
Donc à la limite, c'est presque encore une quatrième fonction. M'enseigner, faire de la recherche, l'administration, être enseignant référent. C'est-à-dire prendre du temps pour écouter, orienter, enfin, c'est énorme.
C'est énorme, oui. En même temps, ça, pour moi, le côté... Alors enseignant référent, pour le coup, c'est une des fonctions les plus agréables, les plus... valorisante, où je me sens le plus utile, parce qu'on a des conversations qui débouchent. C'est-à-dire que j'avais une étudiante il y a quelques années, donc première réunion à la rentrée, on a une réunion, on remplit la fiche pédagogique, c'est-à-dire le contrat en fait, qui dit voilà les examens que je vais passer, on a une brève discussion sur pourquoi avez-vous choisi cette licence d'anglais. Oh, je sais pas, je m'étais dit que pourquoi pas. Très bien. Deuxième réunion après les résultats d'examen du semestre 1, cette étudiante avait des très mauvais résultats. Alors je lui dis, bon, c'est pas Folichon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Elle me dit, bah, je sais pas quoi faire. Alors je lui dis, non, mais qu'est-ce que vous aviez envie de faire ? Vous avez envie de travailler dans quel métier plus tard ? Quel genre de métier ? Elle dit, je voudrais travailler dans le cinéma. Pas en tant qu'actrice, mais dans tout ce qui est préparation, donc maquillage, etc. Et je lui dis, mais vous êtes renseignée sur ces métiers ? Ah non. Donc, à la suite de notre conversation, elle est allée se renseigner. Qu'est-ce qui existe comme métier donc, qu'est-ce qui existe comme formation ? Troisième réunion, au mois de mai, je crois, en préparation des examens, enfin, pour parler un peu des examens qui vont arriver. Je lui demande, alors, vous en êtes où ? Et elle me dit, ah ben, j'ai passé un concours, l'année prochaine, je serai dans une école à Paris qui prépare au métier du cinéma.
Alors, concrètement, voilà un cas totalement réussi.
Voilà.
Mais quel est le pourcentage d'élèves qui viennent vous voir d'abord ?
Ah, il est assez élevé quand même.
Il est assez élevé.
Parce qu'on leur dit que s'ils ne viennent pas, ça va chauffer. Mais bon, on leur dit que ce sont des réunions obligatoires. Et comme ils ont... Franchement, les étudiants de première année, pour l'immense majorité d'entre eux, ont envie de bien faire. Simplement, ils ne sont pas armés pour bien faire, puisque jusqu'à présent, ils étaient dans un système très encadré, qui est le lycée, et ça, c'est très bien. Et puis, tout d'un coup, on leur dit « Ben, maintenant, débrouillez-vous » Ce qui est quand même assez injuste. Ils se retrouvent à 18 ans, souvent
ils ne sont plus dans la ville dans laquelle ils ont fait leur lycée. Ils se retrouvent là avec plein d'autres étudiants de leur âge qu'ils ne connaissent pas. C'est forcément, et à juste titre, l'occasion de faire plein de rencontres. Donc on comprend qu'au semestre 1, ce soit un petit peu rock'n'roll, parce que ben, on va à des soirées, on rencontre des gens, on fait des choses, et puis là, tout d'un coup, on est libre. On n'a plus que 15 heures de cours. Et on est habitué à avoir un système, on a beaucoup d'heures de cours tous les jours, 8 heures par jour, avec des devoirs nombreux. Alors que là, pas forcément. L'enseignant va peut-être, ou l'enseignante va peut-être dire, bah voilà une plaquette de TD, travaillez chez vous, et puis vous venez au TD, mais il n'y a pas, on ne vérifie pas le travail fait, il y a une grande liberté. Et cette liberté est très dure à assumer et à gérer. Mmh. Voilà, donc ils ont envie, enfin je pense qu'ils souhaitent être en
capacité. Très bien.
Ça se passe très
bien.
Moi
je pense que de toutes les structures d'enseignement supérieur, la fac, l'université, est celle qui donne la plus grande liberté à l'élève. Mmh. Les parents sont plus ou moins présents, et souvent moins que plus, considérant que l'âge de la majorité est arrivé, donc on laisse faire. Et j'ai vu beaucoup de parents, tout d'un coup, découvrir leur enfant un an ou deux ans après la fac, qui s'effondrait complètement.
Ah oui, oui, oui.
Complètement. Et surpris. Mmh. Bah oui, non. Je pense que c'est inévitable. Mmh. Parce que l'élève de faculté doit prendre beaucoup de responsabilités, beaucoup d'autonomie. Mmh. Et s'il n'est pas un minimum accompagné, il va pas marcher. Mmh. Ça va marcher. Mmh. Alors ça, c'est le versant des étudiants. Le versant des autres collègues, comment ça se passe? Puisque dans la fac, vous êtes nombreux. Vous vous retrouvez ou vous établissez de petits groupes sympa, comment ça se passe?
Ben, alors, ça, c'est un enjeu important et pas toujours simple à négocier. D'un côté, il faut faire tourner la machine. Donc, nous avons des réunions régulières qui sont des réunions pour valider des décisions collectives. Et les décisions collectives, c'est jamais simple à prendre parce que d'un côté, nous sommes tous égaux et d'un autre, ben, nous ne sommes pas tous égaux. Nous sommes égaux parce que nous sommes tous enseignants-chercheurs, mais il y a quand même une hiérarchie, ne serait-ce que entre maîtres de conférences et professeurs, c'est-à-dire que les professeurs, ce sont des collègues qui ont publié un certain nombre d'articles, qui sont reconnus dans leur champ de spécialisation et qui ont passé quelque chose qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches. Donc, ils sont habilités à diriger des doctorants et des doctorantes. Ouais. Donc, en gros, ce sont les personnes qui font advenir, en quelque sorte, les collègues de demain. Donc c'est très important qu'ils aient un rôle de pilotage de nos orientations. Mmh. Alors ça, pour quelqu'un comme moi qui suis maître de conférence, à la fois c'est formidable d'avoir des gens qui sont meneurs, et puis à la fois, forcément, les maîtres de conférence, nous n'avons pas tous les mêmes centres d'intérêt de recherche que nos collègues professeurs, et donc nous aimerions bien que nos thèmes à nous deviennent prioritaires, mais c'est difficile de le justifier, puisque nous ne sommes pas habilités à diriger les recherches, donc ça amène des conversations, parfois pas toujours simples, pour arriver à des accords collectifs. Donc nous avons ces réunions-là, qui sont des réunions politiques, en quelque sorte, de politique de la recherche, de politique de l'enseignement, donc comme toute réunion politique, même si ça se passe toujours de manière très cordiale, eh ben, des fois c'est un peu difficile, parce qu'on voudrait gagner, puis on gagne pas, on n'a pas toujours ce qu'on espère. Après, il y a le côté social des réunions. Et bon, bah là, effectivement, les petits groupes se forment comme partout. Par affinité. Souvent aussi par classe d'âge. Enfin, ça soit assez. Quand on a à peu près le même âge, on a aussi souvent à peu près les mêmes préoccupations, des enfants qui ont le même âge. Donc ça crée une sociabilité naturelle, je dirais.
Et la structure administrative, c'est-à-dire tout le personnel administratif, ce qu'on appelait les ATOS, c'est quoi? C'est un autre monde à part? C'est un monde de coopération, c'est un monde qui est assez logique, qu'il faut respecter. C'est quoi?
Ben, ce sont, voilà, là aussi, c'est un peu pas toujours facile à naviguer. Puis quand on est nouveau et qu'on arrive comme moi, on débarque, on comprend pas tout de suite que ce sont effectivement des mondes qui sont à la fois proches parce que nous travaillons ensemble, mais étanches quelque part, puisque nos collègues des services administratifs ont leur propre hiérarchie et ont leurs propres règles. Et nous sommes censés à la fois travailler alors avec ses collègues, mais parfois nous sommes dans une position où nous sommes a priori censés leur demander de faire des choses, mais nous ne pouvons pas insister puisque nous n'avons pas de rapport hiérarchique. Donc c'est une relation assez complexe, pas toujours simple à négocier, mais bon, cela fait des décennies que l'université marche comme ça, donc je ne vois pas pourquoi nous n'y arriverons vraiment pas. Et puis, là, c'est pareil, il y a des personnels avec lesquels on s'entend très très bien, et les choses se font automatiquement, et tout coule. Et il y en a d'autres qui sont plus réticents, et avec lesquels il faut négocier et trouver d'autres.
Alors, si on prenait la référence des mousquetaires, Athos est déjà en place, alors qu'est-ce qui fait Aramis et les autres?
Ouais, ben, je ne sais pas.
Vous avez sorti votre premier livre? Pas encore.
Non, pas encore.
Il s'en vient tout doucement.
Il faudrait. J'ai une fenêtre de tir qu'il faudrait que j'arrive à respecter, qui est les 4 années de commémoration de la guerre de 14-18. Puisque ma thèse portait sur les mouvements donc féministes, comme je disais tout à l'heure, et leur réflexion sur la guerre et la paix, donc les questions de guerre et de paix, entre 1850 à peu près et 1920. Mmh. Mais le cœur de mon travail portait sur la guerre de 14. Donc, si je suis un peu logique, le marché pour ce genre de bouquin, c'est avant 2018.
Oui, et c'est pas plus mal qu'il arrive maintenant, puisque cette année, on a surtout parlé des guerres, de plein d'autres choses, voilà. Alors que la femme va arriver ensuite. Mmh. Mais Dieu qui a à dire, non ?
Oui. Et puis, en plus, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mouvements féministes. Et là, il y a énormément de choses, justement, qui sont intéressantes, précisément parce que... Pourquoi je me suis intéressé à la guerre de 14 et pas une autre ? Parce que la guerre de 14, en partie, est justifiée du côté britannique, l'entrée en guerre, est justifiée par l'Allemagne qui envahit la Belgique, qui est neutre. Mais... c'est pas uniquement une justification basée sur les traités internationaux. C'est pas simplement de dire bah, l'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique. C'est aussi un argumentaire qui se déploie sur le front du genre, en représentant l'Allemagne sous la forme d'un monstre masculin débridé qui violerait littéralement non seulement la Belgique mais les femmes belges. Et donc il y a tout un argumentaire développé par les autorités britannique en disant regardez ce que les Allemands font aux femmes belges, alors elles sont violées, aux enfants belges qui sont tués à la pointe de la baïonnette, enfin, tout un tas de choses comme ça, on ampute les seins, enfin, etc. Donc, des choses basées sur des rapports plus ou moins vrais, certains sont vrais, d'autres un peu moins, mais ça fait écho aux justifications de la guerre en Afghanistan où on explique qu'on va envahir l'Afghanistan pour libérer les femmes afghanes. Voilà. Et moi, je vois des échos, là. Parce qu'en fait, si vous regardez un peu les justifications des guerres à travers l'histoire, en tout cas l'histoire récente, à chaque fois, une bonne raison d'aller faire la guerre, c'est qu'il faut aller libérer les femmes d'en face, les femmes qui sont opprimées par ces horribles barbares, etc. Et on se présente toujours en homme chevalier blanc. Le chevalier qui vient libérer, et il y a des posters de recrutement britannique qui représentent les soldats britanniques en Saint-Georges qui va tuer le dragon. Le dragon étant très clairement une expression d'une virilité débridée, enfin une masculinité débridée qui a perdu tout sens du contrôle, des limites. Voilà. Donc ce qui m'intéresse, ce sont justement, les discours, la manière dont la guerre est une activité genrée, c'est-à-dire une activité qui s'exprime à travers des codes de genre, on dépeint l'adversaire comme masculin, féminin, etc., et soi-même, comment on se décrit. Puis après, la réaction féministe à tout ça, c'est-à-dire la pensée féministe autour de la guerre et de la paix, quelle est la place des femmes dans la guerre ? Les femmes en tant que collectif, puisque ces femmes féministes, elles mobilisent les femmes pendant 50 ans pour obtenir le droit de vote, et là, elles se retrouvent face à une guerre où on leur dit « Femmes, venez soutenir les soldats, remplacez-les ». Puis d'autres qui disent « Non, non, femmes, vous êtes mères, donc vous devez sauver la race humaine en empêchant cette guerre ». Alors on fait quoi quand on est féministe ? Et c'est les mêmes, c'est des débats très proches avec la guerre en Irak. Il y a des féministes qui disent « Oui, allons bombarder les affreux talibans pour libérer les femmes afghanes », et d'autres qui disent « Mais c'est pas, on va pas libérer les femmes afghanes en leur balançant des bombes sur la figure ».
Voilà. C'est passionnant. J'imagine que tous les jours, vous découvrez des perspectives absolument extraordinaires.
Oui.
À propos de la femme, c'est un sujet inépuisable.
Oui,
vous envisagez vous réincarner pour continuer votre travail.
Ce serait bien, oui.
Alors, j'allais dire, j'ai un petit questionnaire que je pose toujours à ceux que je reçois, qui n'est pas le questionnaire de Pivot, qui n'est pas celui de Proust, mais qui est intéressant. Trois mots qui rendent présent votre enfance.
Alors, États-Unis. C'est deux mots, ça?
Non, j'en fais un.
États-Unis. États-Unis. Soleil. Soleil et, j'ai envie de dire, Hawaï.
D'accord. Trois personnes vivantes que vous admirez le plus?
Alors, trois personnes vivantes. Rodney Barker, qui est professeur émérite aujourd'hui à Londres, professeur de théorie politique. Anne Phillips, qui est une professeure de théorie féministe, que j'admire le plus. Je dirais un homme que j'admire beaucoup, Quentin Skinner, qui est un historien des idées politiques britanniques.
D'accord. À ce jour, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous ?
Mon corps.
Trois rêves pour la suite de votre voyage terrestre ?
Trois rêves ? Alors, publier un bouquin. Publier ce bouquin, qu'on en termine. Voyager autour du monde avec mon épouse, parce que il faut absolument qu'on le fasse, et que mes enfants soient heureux. C'est pas un rêve pour moi, enfin c'est pour eux.
Selon vous, qu'est-ce que vous laisserez en friche le jour où vous serez parti?
Qu'est-ce que je laisserai en friche?
Voilà,
certainement un bouquin. Certainement un bouquin qui sera toujours pas fini.
Vous avez tous les pouvoirs. Quels sont les trois actes majeurs que vous posez?
Ouf. Alors, j'ai tous les pouvoirs. Alors déjà, on va faire en sorte qu'il y ait un système permettant l'égalité professionnelle homme-femme. Ça, c'est important. Ensuite, j'ai envie de dire, bon, c'est pas terrible de dire ça, mais j'ai envie de dire le racisme et la xénophobie disparaissent d'un coup, comme ça. Bon, ça, c'est du pouvoir magique plutôt que du pouvoir politique. Et j'introduis la... Ah oui, oui, ce qui serait pas mal, ce serait un salaire universel pour les jeunes, qui remplacerait la bourse. C'est-à-dire, je voudrais décoller la bourse de l'obligation à suivre des études.
Votre devise ?
Ma devise ? Ça, c'est dur aux questions.
Oui, bien sûr.
Pour un
maître de conférence, là.
Ma devise quand je suis de bonne humeur, on va dire. La devise quand je suis de bonne humeur. Poursuis ton rêve.
Selon vous, trois mots pour parler de l'autre?
Je dirais insaisissable, différent, émouvant.
Trois mots pour parler du monde actuel.
Oh. Déprimant, inquiétant, chaud.
Trois valeurs qui fondent votre vie.
Est-ce que le féminisme est une valeur ? L'égalité, l'égalité, mais au sens très large. La bienveillance. Le savoir.
Le sens de votre vie, en un mot, c'est quoi ?
Eh bien, si je le savais, disons que le sens que j'essaie de lui donner, c'est la transmission d'un espoir.
Quelle question que vous auriez aimé que je vous pose en plus ?
Quelle question que j'aurais aimé que vous me posiez en plus ? Ben, je ne sais pas. Non, je n'en vois pas. Elles étaient complètes.
Alors, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et je retiens bien qu'à partir d'ouvrage, vous mettez à l'ouvrage pour faire votre œuvre.
Oui, absolument.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Comme beaucoup de ses étudiants, j'ai été frappé, en plus des compétences de Marc, de son ouverture, de son dynamisme. Avec ses paroles, il y a une joie de vivre, une musicalité qui ne peut que retenir l'attention. De plus, au-delà de sa spécialité, il y a une culture, des centres d'intérêt variés, une sensibilité artistique. Marc sait faire face à quatre logiques. Celle de la recherche, celle d'enseigner, celle de l'administration très singulière à l'université, et celle, souvent trop oubliée, je pense, du pédagogue très attentif à ses étudiants. Nous retrouverons Marc en juin 2016 pour une émission Paroles d'écriture sur le féminisme est-il l'avenir de l'homme ? Le féminisme, l'un de ses domaines de recherche. Merci Marc.